Salut et bienvenue dans l'épisode 22 de la saison 6 d'ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont. Autour de la table ce lundi, Vincent Belmis et Arnaud Clergue. Messieurs, bonjour.
Bonjour Manu, salut à toutes et tous.
Bonjour à tous, aussi. Salut.
Alors au menu de bien. Cette émission,
pas mal.
Cette question, l'ASM Clermont peut-elle descendre en Pro D2 ? À 5 journées de la fin de la saison régulière, les Clermontois occupent la 11e place du top 14 avec seulement 4 petits points d'avance sur le barragiste Montpellier. Nous évoquerons également le prochain rendez-vous des Auvergnats. Ce sera ce samedi avec cette réception cruciale du leader, le Stade Français. Et enfin, nous terminerons avec les traditionnels top et flop. Mais abordons sans plus attendre le thème principal de ce podcast avec cette question. L'ASM Clermont peut-elle descendre en Pro D2 ? Messieurs, un petit tour de table rapide, Vincent.
Ça dépend du match de samedi pour moi.
Pardon ?
Alors, on va pas se mentir, il y a un peu le feu à la maison. C'est un peu compliqué, mais non, je ne les vois pas, descendre en Pro D2.
C'est vrai, c'est particulier d'évoquer cette question quand on parle de l'ASM, un club qui était habitué à jouer les premiers rôles, à jouer les qualifications, qui n'est jamais descendu. Mais là, c'est vrai que plus la saison avance, alors un petit point rapide sur le classement, après la lourde défaite concédée par les Auvergnats dimanche du côté de Chaban-Delmas, ce revers 41-7 et à 5 journées de la fin de la phase régulière, donc l'ASM occupe la 11e place avec 42 points. Clermont qui compte 4 petits points d'avance sur Montpellier, 13e. Donc on se dirige, messieurs, vers un championnat à 4, très clairement, entre Bayonne, l'ASM, Lyon et Montpellier pour cette fameuse place de 13e, place de barragiste. On peut estimer qu'Oyonnax, qui est actuellement dernier, 14e, avec 12 points de retard sur Montpellier, sera relégué à la fin de la saison. Et donc l'intérêt maintenant, c'est cette 13e place. Le 13e, on rappelle, affrontera le perdant de la finale de Pro D2.
C'est bien pour ça que je ne les vois pas descendre. Quand on parle de descente pure et dure, il faut finir à la 14e place. Cette 14e place est promise à Oyonnax. Et si l'ASM, par contre, l'ASM est en danger concernant la 3e place et ce fameux match d'accès. Access match avec donc le perdant de la finale de Pro D2, et j'ose espérer que l'ASM, si l'ASM met toutes ses forces vives ce jour-là, je pense quand même que l'ASM est en mesure de battre n'importe quelle équipe de Pro D2, même le perdant de la finale de Pro D2. Franchement, on va pas parier quelque chose quand même, mais s'il faudrait parier, je mettrais un billet sur la table. Non, je pense que l'ASM a toutes a bien plus d'arguments que n'importe quelle équipe de Pro D2 si toutefois elle disputait un match, ce fameux access match de fin de saison.
Avant de parler d'access match, est-ce que selon toi l'ASM peut finir 13e ?
Ah oui, l'ASM peut finir 13e. Et comme le disait Vincent, ça va beaucoup dépendre, laisserai argumenter par la suite, mais ça va beaucoup dépendre du résultat de samedi face au Stade Français. S'il y a défaite, ça va se rapprocher nettement.
Ouais, c'était, je voulais préciser ma réponse quand je dis que ça dépend grandement du match de samedi. Merci pour la passe.
Quelle charnière magnifique.
J'ai essayé de marquer en coin. Oui, ça dépend du match de samedi. Ma réponse était là pour pas se mettre le feu en fin de saison. J'ai envie de croire que s'il y a victoire contre le Stade Français, l'ASM ne sera même pas concerné par la 13e place, selon moi. Je pense que le plus dur sera fait, la pression, il y aura une grosse décharge de pression à ce moment-là. Mais le problème, c'est que l'ASM, on l'a vu à Bordeaux, y a quand même pas mal d'interrogations autour de ce match. Ce match, il est vraiment loin d'être gagné.
Alors, avant de revenir justement sur le contenu de ce match à Bordeaux, j'ai fait un petit point sur le calendrier donc de ces quatre équipes qui seront concernées, encore une fois, qui nous semblent aujourd'hui concernées par cette lutte pour éviter cette 13e place. On met Perpignan et Castres 8e et 9e avec 49 points à part. Donc, on s'intéresse à Bayonne, à l'ASM, à Lyon et à Montpellier. Alors, c'est simple, c'est sur les 5 matchs qui reste à disputer, 3 réceptions pour chacune de ces équipes et 2 déplacements. Bayonne, 10e avec 44 points, va recevoir Bordeaux, ira au Racing, recevra Perpignan, ira à Oyonnax et recevra Castres. L'ASM, 11e avec 42 points, reçoit donc le Stade français ce samedi, ira ensuite à Perpignan, recevra Castres, se déplacera à Toulon et recevra Montpellier en clôture de cette phase régulière. Lyon, 12e avec 42 points, accueillera Pau, ira à Toulon, recevra le Racing, ira à Montpellier et recevra Toulouse. Et enfin, Montpellier, 13e aujourd'hui avec 38 points, recevra Perpignan lors de la prochaine journée, ira à Castres, recevra Toulouse, recevra Lyon et terminera à l'ASM. Il faudrait peut-être pas pour Clermont que cette dernière journée face à Montpellier, tout se joue en fait sur cette rencontre-là.
Quand on vous écoute égrener les dernières journées de championnat, cet ASM Montpellier de la dernière journée ressemble fortement à une finale pour la finale pour la 12e place, si j'ai envie de dire.
Mais pour moi, là, Clermont, enfin, n'a que, avec beaucoup de guillemets, n'a qu'à gagner ses matchs à domicile. Je pense qu'ils peuvent, Christophe Furios ne peut se permettre de cibler 3 matchs sur 5. Je pense que ça peut suffire.
Ouais, je pense aussi, ouais. Parce qu'ils ont quand même 4 points d'avance sur Montpellier.
Montpellier qui va devoir aller à Castres, c'est pareil, ou Castres qui peut encore se qualifier, mais qui n'est pas mathématiquement assuré aussi d'éviter cette 13e place, déplacement pas simple. Montpellier qui devra recevoir également Toulouse. Voilà,
c'est... Ils reçoivent quand Toulouse
Toulouse, ils les reçoivent lors de la 24e journée.
Alors, Toulouse qui devra peut-être assurer.
Qui sera peut-être encore en lice.
Pour les deux premières places, ouais.
Si je ne dis pas de bêtises, ce sera après les demi-finales de Challenge Cup.
Entre la demi-finale et la finale.
Et la finale,
et c'est ça. Et une
éventuelle finale.
Si Toulouse peut assurer sa deuxième place, peut assurer une place dans les deux, ils vont faire le voyage. Ils vont mettre la grosse équipe pour aller à Montpellier. Ouais.
Alors, Vincent commençait de l'évoquer tout à l'heure sur ce match à Bordeaux. C'est vrai que Clermont, effectivement, on peut légitimement penser que s'il y a 3 victoires sur les 3 réceptions, une partie du chemin sera sûrement faite. La défaite à Bordeaux, très lourde, on rappelle le score 41-7, a été assez inquiétante aussi. Quand on regarde le contenu proposé par les Auvergnats, tu y étais, Arnaud, à Chaban. Clermont qui a eu un mal fou à tenir le ballon, qui en a perdu énormément, et puis qui a été inoffensif en fait.
Moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est même en première mi-temps où l'ASM n'avait franchi la ligne qu'une fois, une seule fois. Pourtant, l'ASM a eu des temps forts en début de première mi-temps, a eu quelques minutes devant la ligne de Bordeaux, mais jamais la défense bordelaise en fait n'a été inquiétée, et c'est cette impuissance offensive, ce manque de réalisme, c'est une impuissance, c'est de l'impuissance offensive qui m'a particulièrement choqué, d'autant plus qu'en face, bon, avec des Mado Chtamboué, des Pono, des Tapoué, des Buros, ça partait de tous les côtés, le delta entre les deux équipes c'était cruel pour l'ASM, quoi. Ça fait mal de voir ça.
En plus, il y avait de la fébrilité dans les rangs bordelais, parce qu'on savait que l'UBB sortait de ce quart de finale perdu d'un point face aux Harlequins. Il y a eu des en avant. On sentait qu'il y avait de la pression quand même sur les épaules des Bordelais pendant le premier acte.
Voilà, en plus, ils vendangent et cavièrent leurs 4 premières touches, Bordeaux.
On n'a pas vu le meilleur Bordeaux saison. Ouais. Si ça avait été le même que celui qui avait reçu le Stade Toulousain, ça aurait été une boucherie, je pense.
Devant, en début de match, l'ASM tenait plutôt son rang. Ils essayaient de les prendre devant, ça marchait pas trop mal. Enfin, je trouvais pas l'ASM. Je trouvais l'ASM plutôt au niveau, mais c'est cette incapacité à franchir, cette incapacité à créer qui était. Ça faisait peine à voir. Ouais, ça faisait peine à voir.
C'est inquiétant quand on voit ce contenu. Quand on voit le calendrier qui arrive, il y a de quoi s'inquiéter quand même pour Clermont là.
Oui, bien sûr, mais je trouve que c'est quand même un résultat relativisé, dans la mesure où je pense pas que ce match-là faisait partie du tableau de marche de Christophe Furios. Il avait, je le rappelle, mis 19 gifs sur 23 sur la feuille de match. Je pense qu'il était déjà dans l'anticipation du match d'après. Il a fait un peu gonfler la moyenne, donc il doit être au-dessus des 16. Je crois qu'actuellement, c'est à 16,1. Je pense que l'équipe qui sera alignée face au Stade français fera appel à des joueurs. Il y a Marcos Kremer qui est revenu, là, mais qui devrait prendre un peu plus d'importance. Ouais, Moala, Lee.
Il est indispensable.
Moala, Lee, Delgui, ouais. Lavanini, c'est des joueurs qui ont brillé notamment en Challenge Cup. Ouais. L'ASM n'est pas soumise à cette contrainte en Challenge Cup. Il y a un peu plus de densité et de qualité quand tous ces éléments sont là. Donc c'est pour ça, certes ils sont passés au travers, il n'y a pas grand chose je pense à garder de ce match, mais je pense que ça ne faisait pas partie du tableau de marche.
On parlait de cette contrainte d'Égypte, ça sera aussi un élément prépondérant pour la lutte, pour cette lutte entre les équipes que vous avez dit tout à l'heure. Ça sera quelque chose de prépondérant. On voit bien qu'aujourd'hui, l'ASM, si elle se déplace en essayant de mettre beaucoup de gifs, elle n'y arrive pas. Les meilleurs joueurs de l'ASM sont des joueurs non gifs, ce sont des joueurs étrangers. Et s'ils ne sont pas sur la feuille de match, l'ASM devient ça s'y connaît tout de suite. L'ASM devient impuissante.
Selon toi, c'est ça qui l'empêche justement d'enchaîner les bonnes performances d'une semaine à l'autre. C'est ce que Christophe Furios évoquait en conférence de presse. Il ne comprenait pas pourquoi son équipe n'était pas capable d'enchaîner. Il évoquait le bon match la semaine passée face à l'Ulster. Une semaine plus tard, après...
Moi, je pense aussi que la Challenge Cup, c'est pas le top 14.
Ça, c'est évident.
Je pense que l'Ulster était pas. L'Ulster n'a pas son lustre des saisons précédentes. C'était un petit Ulster qui est venu à Clermont. Et l'Ulster, c'est pas l'UBB. Hein. L'UBB était à deux doigts de se qualifier pour la demi-finale de Champions Cup. Il y a une différence de niveau. Et ça y joue aussi.
C'est en trompe-l'œil parce qu'on en a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé de
fait un super match contre l'Ulster.
Mais est-ce que la deuxième mi-temps, où c'est vrai que l'Ulster a vraiment baissé de pied à partir de l'heure de jeu, est-ce que du coup il y a eu un petit trompe-l'œil peut-être
Je sais pas s'il y a eu un petit trompe-l'œil parce que non. Encore une fois, l'ASM fait un super match. Hein. Christophe Furios le soulignait, ils n'ont pas tombé beaucoup de ballons, ils ont pu enchaîner les temps de jeu, ça a été tout le contraire dimanche soir à Bordeaux. Mais encore une fois, l'ASM contre l'Ulster a aligné tous ses meilleurs joueurs. Comme le disait Vincent, ils ne sont pas soumis à la contrainte GIF en Challenge Cup, donc ils peuvent aligner leur équipe type, Christophe Furios n'a pas cette contrainte, donc quand on a ses meilleurs joueurs sur le terrain, forcément on voit tout de suite la différence, et c'est ce qu'on dit depuis le début de la saison. L'ASM n'a pas une profondeur d'effectif suffisante pour jouer les premiers rôles en top 14, et on le retrouve dans le classement aujourd'hui.
Est-ce que quand on est l'ASM et qu'à la 22e journée on ne compte que 4 points d'avance sur le 13e, est-ce qu'on peut basculer sur la lutte pour le maintien? On sait que c'est des matchs toujours particuliers, il y a des équipes qui sont formatées, qui sont prêtes à se battre pour le maintien. C'est pas le cas de l'ASM qu'on annonce souvent comme un candidat crédible au top 6.
Je pense pas que ça soit le cas de Montpellier, je pense pas que ça soit le cas de Lyon, je pense pas que ça soit le cas de Clermont.
Est-ce que ça peut peser par contre justement ça? Est-ce que dans une équipe qui n'était pas forcément formatée pour se battre pour le maintien, est-ce que la pression peut la rattraper? Est-ce que justement ça peut influer sur les résultats?
Je pense oui, peut-être probablement un peu. Je pense qu'une équipe comme Bayonne par exemple est peut-être plus armée que les équipes, que Lyon, que Clermont, que Montpellier a joué le maintien, oui, probablement.
Après, faut le rappeler, l'ASM ne va pas bien depuis plusieurs saisons. Hein. Donc il y a déjà eu les joueurs, le club est malheureusement un petit peu habitué maintenant à évoluer dans ces strates-là. J'ai le souvenir, il me semble, il y a quelques saisons qu'il y avait eu un match chaud à jouer du côté de Brive, qui concernait aussi le maintien, enfin potentiellement le maintien. L'ASM avait réussi à le gagner. Tous les acteurs ne sont plus là, mais le club, depuis quelques saisons, gagne un peu d'expérience avec le bas du tableau et la lutte qui s'y trouve.
Très bien, eh bien on suivra en tout cas ce
match. En tout cas, pour ajouter quelque chose... il y a eu Baptiste Jauneau en conférence de presse hier après le match. Lui, il n'a pas hésité à dire on joue le maintien. Donc je pense que les joueurs en ont parfaitement conscience. Christophe Furios, ça ne veut pas parler de ça.
Il dit que ce n'était pas un gros mot pour lui.
Donc je pense que tout le monde en a conscience dans le club maintenant.
Moi aussi, un petit truc à ajouter. Il y a quelque chose qui, par contre, est un peu inquiétant. C'est au niveau du poste de pilier gauche, la blessure de...
La transition, on allait y venir.
Pardon,
la transition est toute trouvée, Vincent.
C'est les grands. C'est les grands, voilà.
C'est ça qu'on les reconnaît. Non, mais effectivement, je vais l'aborder sur le deuxième thème de cette émission, de ce podcast, la réception du Stade français, réception cruciale. Tu en parlais tout à l'heure, Vincent, justement, qui, selon toi, va déterminer la fin de saison des Clermontois. Un match que les Auvergnats vont devoir aborder avec pas mal de handicap, puisque en plus de la lourde défaite concédée à Bordeaux, il y a eu des blessés. Sébastien Bézi s'est blessé aux ischios, et également Daniel Bibi-Bizivu qui s'est lui blessé au coude.
Suspection de luxation du coude.
On rappelle, Étienne Falgou est absent. Donc Daniel Bibi-Bizivu pas là. Il n'y a que Georges Iberia au poste de pilier gauche. Qui sera disponible, le seul pilier gauche de métier qui sera disponible pour défier le Stade français. Ça ajoute une contrainte supplémentaire là.
Ouais, c'est vraiment pas l'idéal, et on se demande pourquoi l'ASM, on peut se poser la question du pourquoi l'ASM n'avait pas pris un joker médical à l'époque où Falgou s'était blessé. Ouais.
On rappelle que les jokers médicaux ne peuvent plus, enfin les clubs ne peuvent plus faire appel aux jokers médicaux depuis la fin du mois d'avril.
Donc ouais, ça va être compliqué. Un pilier gauche, Georges Iberia déjà qui enchaîne les matchs depuis quelques temps et qui est une des satisfactions du moment. Hein. Il fait plutôt des bonnes sorties, mais il pourra pas enchaîner 80 minutes comme ça. Alors je sais, est-ce qu'on va aller chercher dans les espoirs?
Thomas Duchesne, peut-être.
Ouais, peut-être Duchesne. Je crois que Dzamanashvili est capable de jouer à gauche, mais c'est du bricolage, quoi. C'est du bricolage, et pour affronter le leader, c'est.
Puis c'est du bricolage, pas pour un one shot. Hein. Je crois que ça va durer.
Oui, c'est ça. C'est que ça pourrait durer effectivement. Tu parlais, Arnaud, effectivement, la réception du leader, le Stade français, qui est tout simplement la meilleure équipe à l'extérieur en 10 matchs disputés loin de ses bases. Le Stade français s'est imposé 6 fois, a concédé 4 défaites et a pris 24 points. Le Stade français qui s'est notamment imposé à Perpignan, 29-7, du côté de Lyon, 36-32, face à l'UBB, 30-26, à Oyonnax, 23-19, et lors du derby francilien, face au Racing, 27-11. Sans oublier ce succès à Montpellier, 12-10, une équipe solide. C'est pas forcément, c'est tout le paradoxe hein, de cette équipe du Stade français qui propose pas le rugby peut-être le plus séduisant de ce top 14, sauf qu'ils sont en tête et c'est plutôt efficace et ça marche notamment à l'extérieur, Vincent.
Bah ouais, je crois que c'est un club. Ouais, c'est assez surprenant à chaque fois quand on regarde le classement après chaque week-end, on se dit mais c'est vrai qu'ils sont toujours en haut depuis, ça fait des mois que ça dure. Je crois que la recette du succès, elle est déjà l'arrivée des coachs, là, Karim Ghezal et Laurent Labitte a un peu métamorphosé cette équipe. J'ai pas vu tous leurs matchs, mais j'ai le sentiment qu'il y a un contenu, enfin la façon dont ils bâtissent leurs matchs me fait penser à, je sais pas, un peu comme ça se passe en Pro D2. Un paquet d'avant assez solide et quelqu'un qui derrière est capable d'enquiller d'à peu près partout, que ce soit second ou sa canerie. Ce sera forcément difficile samedi.
Ouais, puis y a la confiance est là parce que ce week-end ils étaient plus que malmenés face à Bayonne. Ils trouvent les ressources pour aller décrocher cette victoire. Alors après, avec cette polémique sur la dernière action, chacun se fera son opinion, mais en tout cas ils ont su trouver les ressources pour aller chercher ce succès.
Ils ont trouvé les ressources pour aller chercher ce succès, un succès qui leur donne maintenant 6 points d'avance au classement. Moi je serais entraîneur parisien, je serais entraîneur du Stade français, je me dirais il y a un coup à faire à Clermont pour assurer presque une place dans les deux premiers, avec 6 points d'avance sur Toulouse. S'ils ramènent un bon résultat de Clermont, normalement ils sont dans les deux premiers, ouais.
Surtout je te coupe Arnaud juste pour donner le calendrier du Stade français jusqu'à la fin de la saison. Donc il y aura ce déplacement à l'ASM samedi, derrière il y aura un autre déplacement à Toulouse chez son dauphin pour l'instant. Réception de l'UBB, déplacement à Castres et réception de Toulon. Quand on voit le calendrier, la SM est peut-être l'équipe sur le papier la plus faible que les franciliens vont affronter. Donc effectivement, vu le contexte, en plus Morgan Parra connaît très bien le contexte clermontois, il fait partie du staff francilien désormais. Donc effectivement, si faut aller faire si un coup à faire à l'extérieur, c'est peut-être ce samedi.
Et ils n'ont plus de Coupe d'Europe à jouer en plus.
Aussi, également. Vincent, tu disais tout à l'heure que ça allait se jouer sur ce match-là, enfin que ce match-là allait déterminer la fin de saison des Clermontois. On s'en doute, la pression va être énorme, mais depuis plusieurs semaines maintenant, on sait qu'à chaque faux pas à domicile, Clermont se mettrait dans une situation très délicate et un faux pas samedi compliquerait sérieusement leur situation.
Voilà, clairement, franchement, il y aurait vraiment le feu, et pour de vrai, cette fois, au Michelin, enfin, une deuxième fois, mais je pense que clairement, cette saison, c'est peut-être le match où il y aura le plus de pression sur les épaules des hommes de Christophe Furios. Vraiment, je sais pas trop comment l'équipe se relèverait si jamais il y avait revers samedi.
Très bien. Eh bien, merci messieurs, on suivra ça en tout cas. Tous les articles bien sûr sur l'actualité de l'ASM à retrouver sur lamontagne.fr ainsi que dans l'édition papier. Avant de se quitter, on va aborder les tops et les flops. Vous connaissez le principe, un top ou un flop. On va commencer avec toi Vincent.
Ce sera un top. Un top un peu chauvin, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Mais il en faut bien de temps en temps souligner la belle victoire du Stade Aurillacois ce week-end. Lors de la réception de Béziers, c'est un match qui ressemblait un petit peu à celui que va devoir jouer l'ASM, c'est-à-dire que si Aurillac perdait ce match-là, il pouvait y avoir vraiment le feu pour le maintien en Pro D2. Et il se trouve que les hommes de Roméo Gantinec ont livré une superbe partie. Ils ont livré le match qu'il fallait en s'imposant 27-7. Face à une équipe de Béziers, une très très solide équipe de Béziers qui peut clairement viser au moins une finale de Pro D2. Voilà, donc Aurillac n'est pas officiellement maintenu.
Ils ont fait un grand pas,
mais le pas est assez grand et maintenant ils peuvent se tourner avec appétit et confiance vers le derby à Brive vendredi.
Arnaud.
Moi, mon top, ça sera aussi un top, ça sera pour Perpignan. Cette équipe est absolument étonnante et on voit tout le boulot. Alors, certains supporters clermontois, je sais, le critiquent beaucoup, mais moi, j'ai envie de saluer le boulot que fait Franck Azéma dans cette équipe. Franck Azéma confirme que c'est un super technicien. À Toulon, à Clermont, on le sait, pendant de nombreuses années, il a fait un super boulot. Je parle du technicien sur le terrain. À Toulon, il a fait un énorme boulot et on le voit à l'USAP. L'USAP, qui aurait dit avant la Coupe du Monde que l'USAP serait à 3 points du top 6. Et là, ils viennent d'enchaîner des résultats. Ils ont passé 50 points ce week-end à Lyon. Un jeu séduisant, un jeu plaisant, ça part de partout. Il a su également remettre des joueurs sur pied qui avaient quitté l'ASM et qui sont
et qui brillent en plus avec l'USAP. Hein.
Oui, ouais, bien sûr. Non, c'est je salue cette équipe et une équipe qui est très difficile à battre, notamment sur sa pelouse de. Aidez-moi.
Aimé Giral,
voilà, pardon. Un peu de fatigue.
C'est la fatigue du déplacement à Bordeaux.
Exactement.
L'ASM justement qui ira défier Perpignan, ce sera lors de la 23e journée. Ce sera un déplacement costaud pour les Clermontois. Eh bien, merci messieurs de m'avoir accompagné. La semaine prochaine, vous retrouverez Greg Gomez. D'ici là, belle semaine à tous et on vous dit à bientôt. Salut.
Salut à tous.